Depuis deux jours, les évangiles nous tournent vers Jean-Baptiste, comme pour nous conduire là où nous nous étions arrêtés quelques jours avant Noël. Mais en ce deuxième dimanche après Noël, l'Église nous retourne délibérément vers le mystère de Noël, toujours présent et présent toujours. Le prologue de Jean, lu à la messe du jour de Noël, le commencement de son évangile, nous est donc représenté. Les tout premiers mots de ce prologue ont été commentés de très nombreuses fois et par beaucoup de savants et bien des pères de l'Église. L'énarchée au commencement, l'énarchée a fait couler bien de l'encre. Sans aucun doute, il renvoie au Bréchit de la Genèse. Mais la question s'est posée de savoir qui se cachait derrière cette arché, derrière ce bréchit, derrière ce commencement. Le premier évêque d'Antioche du IIe siècle, Théophile, explique ainsi la structure génésique de l'énarché et poiesène au théos. Commencement, créa, Dieu, en grec. Voici ce qu'il dit. L'Écriture nomme l'acte de créer avant Dieu pour indiquer qu'on connaît Dieu par ses œuvres. C'est pourquoi le verbe est avant Dieu. C'est vrai aussi en hébreu du reste. Et si énarché est placé en tête, c'est pour souligner que Dieu a tout fait dans son Verbe. Après cet évêque Théophile, tous les pères verront dans ce commencement la désignation du Fils de Dieu, que ce soit à partir de versions araméennes, hébraïques, grecques ou même encore arméniennes pour Irénée. Les commentaires judaïques, quant à eux, n'ont pas su remonter au-delà de la figure de la sagesse créée. Dès le commencement, avant les siècles, « Il m'a créé », proclame Ben Sira, nous l'avons entendu dans la première lecture. Mais cela ne résolvait pas la question, puisque le terme dont on cherche l'identification, au commencement, se trouve dans la réponse donnée par Ben Sira. Or, en bonne intelligence, on ne définit pas un mot en le reprenant. Ça ne sert à rien. D'analyse de Targum en étude de manuscrits bibliques, les pères ont reconnu dans cet arché le nom du Messie, connu depuis les origines, comme l'indique le Targum sur le prophète Michée. En voici un extrait. « Et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira devant moi celui qui sera oint pour exercer la domination sur Israël, celui dont le nom a été mentionné depuis longtemps, depuis les temps anciens. » Le voilà, le commencement. Cela signifie que tout fut donc créé dans le Christ, y compris la sagesse initialement. Ce pourrait être la source de l'affirmation de Paul que nous entendions dans la deuxième lecture. Il nous a choisis dans le Christ, comprenez dans l'arché, dès avant la fondation du monde. Ce que Jean proclame donc ce matin ressemble à ceci. Dans le commencement, c'est-à-dire dans le Christ, était le Verbe. Le propos que développe ensuite Jean manifeste encore le commencement du monde comme une première révélation de ce Verbe, la lumière cachée dans cette création, qu'il a faite en présence de son Père et avec l'Esprit qui planait. Cette première révélation a précédé celle du Verbe lui-même. La deuxième révélation lumineuse, celle que nous fêtons à Noël, réalisée dans et par l'incarnation, a elle aussi été rejetée par ceux auxquels elle était destinée. Le monde ne l'a pas reconnue, les siens ne l'ont pas reçue, dit Jean. C'est alors que nous découvrons la merveille des merveilles. Avant d'avoir proclamé la venue du Verbe dans la chair, avant d'avoir proclamé l'incarnation du Verbe au verset 14, Jean affirme deux versets plus haut le projet préalable de notre filiation divine. Cela signifie que le projet de notre adoption filiale est antérieure à la réalisation de l'incarnation. Autrement dit, l'incarnation apparaît comme le moyen, et quel moyen éminent, de concrétiser cette filiation voulue par Dieu de toute éternité, voulue dans son Fils éternel, n'ayant pas encore revêtu de nature humaine. Le dessein de Dieu est éternel. Il nous faudrait bien une demi-heure de ce mystérieux silence apocalyptique dont parle Jean afin de rendre grâce pour ce dessein divin accompli dans ces temps qui sont les derniers. Nous mesurons extrêmement rarement la véracité de cette filiation. Nous avons donc été pensés de toute éternité comme fils et fille dans le Christ, héritiers au même titre que notre frère Jésus. Il nous faut en vivre chaque jour, chaque heure, chaque instant. Pouvons-nous dire « Je suis la sœur de Jésus » Je suis le frère de Jésus. Est-ce que nous le vivons vraiment, totalement? Est-ce que quand on nous demande combien on a de frères et sœurs, on oublie Jésus? Je pense que Jean est le premier à avoir expérimenté le mystère de l'adoption filiale. Et je pense que c'est au calvaire que cela a pu s'opérer. En recevant Marie comme mère, en recevant sa mère du Christ agonisant, Jean recevait du même fait son adoption filiale divine par Marie et non pas de Marie. De même que Jésus avait été conçu en Marie par l'Esprit Saint, de même, Jean était reconçu frère de Jésus et donc fils adoptif de Dieu par l'Esprit Saint en Marie. Marie est le lieu primordial de la filiation adoptive opérée par l'Esprit Saint. Elle est le lieu où Dieu opère notre renaissance. C'est par Marie que nous renaissons de l'Esprit. Jésus y invite Nicodème. C'est par Marie que nous renaissons de l'Esprit, comme Jésus a été conçu de Marie par l'Esprit Saint. Nous ne pouvons renaître comme fils et filles de Dieu que de l'Esprit Saint. Et cela s'opère par une femme, mère de Dieu et vierge éternellement. Et il y aurait encore tellement à dire, laissons plutôt l'Esprit Saint nous enseigner.